CISM 89.3 FM.
Bienvenue à Jimmy et Neutron. Nous sommes jeudi le 25 avril et vous êtes en compagnie de moi-même, Corinne, et bien sûr, François.
Salut, Corinne.
Comment vas-tu?
Ça va.
Fin de session.
Je fais du vélo très, très vite jusqu'au sommet de la montagne pour venir en studio.
Bon, ben, puis là, c'est le retour tranquillement du printemps, des beaux jours. Quoi, qu'il fait un petit peu frais cette semaine, mais c'est pas grave.
Mais on est content. Il fait comme frais et chaud en même temps,
oui,
en tout cas.
Effectivement. C'est aussi notre dernière émission de la saison.
Ah, oh, ben, Colin.
Parce que la semaine prochaine, on fait une rediffusion. Mais là, on l'a déjà dit. On l'a dit la semaine dernière, il me semble, puis on l'a dit la semaine d'avant. Oh. On va être de retour. Ah, okay. Pour une saison estivale.
Je me souviens pas qu'on ait dit qu'on faisait une rediffusion la semaine prochaine, toutes ces semaines-là, mais effectivement, on est de retour pour une saison estivale.
Oui, saison estivale, ça va être même jour, même heure, donc jeudi à 13h, donc c'est un rendez-vous. N'y manquez pas, si ça vous tente, ou toujours en rediffusion, soit sur le site de CISM ou sur les applications de balado-diffusion. Puis on le dit souvent, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous proposer des sujets, mais j'aime ça le redire quand même, s'il y a des choses auxquelles vous pensez ou des invités que vous aimeriez nous entendre passer en entrevue, écrivez-nous, s'il vous plaît. Encore une fois, seulement si ça vous dit, mais écrivez-nous. Comme ça, on pourra avoir des sujets intéressants pour l'été.
Mm-hmm.
Puis sinon, sujet intéressant qui n'a pas vraiment rapport avec l'émission, mais dimanche, je suis allée voir un spectacle, François.
Ah.
Et j'ai eu les billets grâce à CISM. Donc, je voulais juste mentionner que je suis allée voir ça. Ça n'a pas du tout rapport avec la science. Je suis allée voir le spectacle d'Oumu Sangaré au MTLUS, qui était présenté par le Festival international des Nuits d'Afrique. Oumu Sangaré, c'est une chanteuse malienne.
Okay.
Et ça faisait 13 ans qu'elle n'était pas venue à Montréal. Puis, dans le fond, elle venait pour son 9e album qui vient de paraître, qui s'appelle Timbuktu. Et c'était vraiment un spectacle incroyable. Elle a une grande influence. Elle a été samplée, entre autres, par Beyoncé sur son dernier album. Je pense que Aya Nakamura a déjà parlé d'elle aussi. Je sais pas si c'est dans ses chansons ou en entrevue. Puis là, c'est les deux que j'ai en tête en ce moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, elle a quand même une grande influence. C'est un spectacle qui était vraiment incroyable, je tiens à le mentionner. Elle a une voix qui est merveilleuse. Il y avait des musiciens sur scène avec elle qui l'accompagnaient très bien. Elle avait des choristes qui dansaient aussi. Donc, voilà. Il fallait juste que je le dise. J'ai eu du fun. Je suis contente d'être allée. Merci, CISM. Merci, le Festival international des Nuits d'Afrique. Et
pendant qu'on fait une capsule culturelle, peut-être que c'est le moment de dire que tu vas être aussi de retour cet été avec ton émission de journée.
C'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, donc je reviens pour une troisième saison de Rooftop Apéro, émission de rap et de cocktail, mais surtout de rap, qui sera diffusée les samedis à 18h. Mm-hmm. Donc, c'est une émission d'une heure, juste à temps pour l'apéro. Donc, c'est exactement ça. Je partage une recette, j'en discute un peu, et sinon, c'est du rap qui joue. Donc, merci d'y avoir pensé, parce que même moi, je l'avais oublié.
Voyons.
Mais sinon, aujourd'hui, François, on parle d'actualité scientifique.
Exact, on termine la saison en actualité.
Ouais.
Donc, c'est toujours bon de faire une revue de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, voire mois. Des fois, c'est des grosses actualités qui passent un peu sous le radar. Et donc, c'est ça qu'on vous propose cette semaine. Et j'imagine que tu as fait un choix musical en fonction des actualités.
Oui, exactement. J'ai choisi des chansons qui sont au palmarès de CISM. Donc, on va commencer tout de suite avec Calamine. On va aller écouter. Et là, évidemment, je ne trouve plus le titre. C'est super bien. On va aller écouter à ce game-là, de Calamine. Et on se retrouve après donc pour cette première actualité scientifique.
Yeah,
Tiens. Je voulais juste écrire quelque chose qui compte. Je suis comme tout le monde, moi je suis comme qui compte. Tony Hawk, swag, poil de Donkey Kong. Souvent tomber des rails, mais j'ai comme qui compte. Les remis sont dope, je connais tous les combos. Le poids sur mon dos, ça leur paye des condos. Je fais pas faire de cash à des messieurs à l'air clean. J'ai mon propre bac, c'est rare que je l'inclue. Yeah, c'est pas tout clair, mais on en sait des bulles. Le plafond de verre, j'ai lancé des briques. Pardonnez leur code, ils savent pas c'est des trucs. Prendez les bulles, ça paye pas les bulles. Ils peuvent tout faire sur le cash public. Mais les hommes d'affaires, ça fait de la whack music. On n'est jamais loin de la side job. Montréal à Saint-Jean. Je pousse comme si j'avais 5 jambes. Promenant skate pour Porsche verte. Le contre, si je l'avais, je m'entorcherais. C'est pas pour casser leur égo de porcelaine. C'est pour les scènes que j'ai pas mis dans leur porcelaine. C'est juste un boys club, il est ancestral. Je fais ça pour les fucked up dans les strats. J'ai peur des faux pas, ils vont compter les strikes. Je monte le gros caillou, faut me passer les straps. C'est évident, me semble qu'on le semait. Quand les réussites qui nous ressemblent, on les amène. Prends leur empreinte partout comme des semaines. Quand c'est grâce à eux, je suis au top. Ouais, ces semaines m'empêchent de dormir. C'est comme de la cheap coke. Même si je suis la pire broke, gardez-les vos cheap coke. Sur mon walk, j'ai pas qu'ils aident. Ils ont assez spiné le cassette, cassette. J'ai dit non à trois labels. On dirait un spam, yo, je prendrais pas l'appel. C'est comme les députés, on les attire à la paix. Ew, c'est les points d'or que moi je sais. Je fais le podcast, pas du rap, HSC. Le sujet de leur track, c'est de te faire acheter. C'est pour acheter, ils pensent qu'à la merch, on t'inquiète pas, je sais. Ils voudraient me fourrer, yo, je pensais j'étais out. Le game veut me voler comme un char à GTA. Le money, y'en a pas de pur, y'a pas de bonne pub. Damn, après ça, ils nous traiteront pas de pur. Le contre reste collé, c'est comme un vieux group tape. Y'a plus d'une trick, t'es mieux de connaître le crypté. On sait plus si ça vient du street. On fera pas une scène du stream, vous êtes industrie.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron et cette semaine, on parle d'actualité scientifique et généralement, j'ai l'habitude de faire des actualités animalières et ou de l'espace.
Oui.
Et je sais que les dinosaures sont pas dans l'espace, mais il me semble qu'une actualité dinosaure, ça serait comme l'accomplissement de tout, en fait. Mais non, mais cette semaine, donc, c'est une actualité qui est en lien avec un insecte, donc qui est en lien avec le règne animal, mais c'est pas nécessairement une actualité qui est directement lié à la bestiole. Donc, on va parler aujourd'hui des tiques et de la maladie de Lyme.
Ah ouh.
Donc, cette maladie, c'est bien embêtant parce que, mais tu sais, dans le fond, si c'est traité rapidement, ça, c'est souvent pas grave, mais si ça passe sous le radar, mais comme les conséquences sont genre graves, mais comme de manière exponentielle.
Ouais.
Tu sais, dans les troubles d'une maladie de Lyme non traitée, on a des troubles neurologiques ou cardiaques ou encore genre la paralysie du visage. Ouais. En tout cas.
Parce que les tiques contiennent des bactéries.
Exact.
C'est ça, il me semble.
Ouais. Et donc, la maladie, elle est transmise par la tique qui est, puis l'agent infectieux, c'est une bactérie. Et, depuis plusieurs années maintenant, cette maladie-là fait partie du paysage infectieux du Québec. Et il y a et partout dans plein de pays du monde, en fait, c'est un enjeu. Et donc il y a une équipe de scientifiques qui regroupe des chercheurs au MIT aux États-Unis, mais aussi des universités en Estonie et en Finlande, mm-hmm. qui se sont intéressés aux activités qui sont les plus génératrices d'infection de la maladie du Lyme.
Ok.
Donc qu'est-ce qui fait
des activités humaines?
Des activités humaines, okay. Tu sais, dans le sens que les personnes, qu'est-ce qui faisait les personnes là, pour attraper la maladie? Et du moins, dans le fond, pour se faire piquer par une tique et attraper la maladie, parce qu'il faut qu'il y ait ce passage-là.
Ouais.
Et donc là, on pense évidemment ici à des activités extérieures là, qui nous amènent à nous exposer le plus à une piqûre de tique, donc genre le camping, apparemment la pratique du golf.
OK, parce qu'il y a beaucoup d'herbes.
Puis aussi comme des genres... immobile pendant longtemps. Tu sais, dans le sens que comme tu es longtemps sans nécessairement bouger dans des espaces extérieurs. Apparemment que le jardinage, selon l'équipe de recherche, est aussi une activité qui est ciblée pour être à risque d'avoir une piqûre de tic. Et il y a une activité qui était pas dans la liste. Et ça, ça l'a surpris notre chère équipe de recherche parce qu'ils s'attendaient à retrouver des activités qui sont apparentées à la course en sentier.
Okay.
Et donc, ils se disaient, mais tu sais, genre, tu cours dehors, t'es souvent dans des sentiers, dans des milieux naturels, t'es exactement dans l'habitat de la tique. Pourquoi que, genre, le monde qui font du jardinage ont plus de piqûres que les gens qui font du jogging?
Est-ce que c'est à cause de l'immobilité, justement?
Mais apparemment, c'est ça qu'ils ont essayé de trouver. Ils ont dit, ben, on va essayer de voir si, pas nécessairement l'immobilité, mais la présence de sueur.
OK.
Donc, est-ce que une grande présence de sueur, parce que toutes les activités qui étaient attendues sur la liste et qui ne se retrouvaient pas, c'était toutes des activités à plus forte intensité.
OK.
Et donc, où les gens avaient plus potentiellement de sueur sur leur peau. Et donc, ils se sont dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans la sueur qui pourrait jouer un rôle dans l'augmentation ou la diminution des chances de transmission de la maladie à l'être humain? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis à la recherche de gènes qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes sont plus ou moins sensibles à contracter la maladie de Lyme et si ces gènes-là sont en lien avec la sueur. Donc, leur résultat de ça, ça a été publié en mars dernier dans la revue Nature Communication. Et donc, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Pour trouver des gènes, ils ont trouvé un bassin de 620 000 personnes.
OK.
Ça, c'est quand même de l'échantillonnage.
Ouais.
Et donc, ça, c'est des données génétiques qui proviennent de hôpitaux en Finlande et en Estonie. D'où les universités en Finlande et en Estonie. Et parmi ces 620 000 personnes-là, il y en avait 25 000 qui avaient reçu un diagnostic de la maladie de Lyme.
C'est beaucoup quand même, hein?
Ouais.
25 000?
25 000 sur 620 000.
600 000, ouais.
Ben ouais, ça veut pas dire que tout le monde a eu une paralysie du visage.
Non.
Donc, c'est ça. Donc là, ils ont pu regarder dans l'information génétique s'il y avait des corrélations ou des correspondances entre certains gènes et la plus grande propension de contracter la maladie ou non. Et leurs analyses, ce que ça a permis de montrer, c'est d'identifier trois gènes qui sont susceptibles d'avoir une influence sur la propension d'une personne à contracter la maladie. Deux des gènes sont relativement connus et on sait qu'ils jouent un rôle dans le codage des protéines impliquées dans la détection des maladies dans le corps. Donc, il n'y avait pas de grande surprise. Donc, comme ça ne veut pas dire que, dans le fond, ces gènes-là sont aussi actifs dans la transmission de d'autres maladies ou dans la prévention de transmission de d'autres maladies. Cependant, il y a un troisième gène que lui, il a été identifié et là, lui, il est plus surprenant et ce gène-là est responsable de coder une protéine nommée SCGB1D2.
OK.
Et on connaît pas grand-chose sur cette protéine-là. En poussant un peu plus l'analyse, l'équipe a trouvé que la protéine est produite dans les glandes sudoripares, donc ici, associée à la sueur, et que donc, étant donné qu'elle est produite en même temps que la sueur, elle peut se retrouver sur la surface de la peau. Et là, ils se sont dit peut-être qu'elle joue un rôle de première ligne de défense contre les tiques.
OK.
Parce que peut-être, on ne sait pas. Donc là, maintenant, on a identifié nos gènes. On s'en va en laboratoire. Donc, notre chère protéine SCB1D2... En faisant certains tests, donc dans des plats de pétri, elle a empêché le développement de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.
Ouais.
Donc, on peut déjà voir qu'elle a un impact direct sur l'agent infectieux. Ensuite, ils ont passé à l'étape souris. Et les souris ayant reçu la protéine comme traitement, donc dans une injection, n'ont pas été infectées par la bactérie.
Okay.
Malgré une exposition forcée. Donc, on leur a comme injecté la protéine et on leur a injecté la bactérie. Et ils n'ont pas développé la maladie. Il y a quand même un hic. Donc là, c'est comme encourageant.
J'ai
peut-être trouvé un genre de traitement préventif. Il y a quand même un hic. Il y a 40% des personnes du groupe étudié, donc on pense à nos 620 000 personnes, qui présentaient une mutation génétique du gène codant la fameuse bactérie SCB1D2. Et ça la rendait vraiment moins efficace.
Okay.
Donc les gens qui étaient porteurs de la bactérie, je dirais, bas de la bactérie, de la protéine modifiée, ça leur prenait comme beaucoup, beaucoup plus de présence de bactéries pour être en mesure d'avoir l'effet comme immunisant, si on veut. Donc, malgré ça, on pense quand même que c'est une piste intéressante de recherche pour éventuellement trouver un traitement préventif contre la maladie de Lyme, parce que je pense pas qu'on en a vraiment à part ne pas avoir de piqûre de tique.
Ouais, effectivement. Ou ben dans le fond c'est que si t'as une piqûre de tique, faut que t'ailles à la pharmacie le plus rapidement possible pour récupérer. Je pense que ça doit être des antibiotiques pour éviter qu'il y ait potentiellement une propagation. Là, ouais. je dis ça, je le sais pas, là, mais il me semble que c'est ça.
C'est ça. Donc, eux, ils disaient que c'est quand même la maladie la plus répandue qui est transmise par les tiques chez l'être humain.
C'est surtout que si excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais si tu as une piqûre de tique puis que tu la vois pas, elle, il est là le problème, en fait. C'est que là, tu réalises pas, puis ça peut prendre des jours, puis ben, là, il est peut-être un peu trop tard.
Puis là, tu vas avoir, c'est ça, une maladie qui va se développer. Donc, les chercheurs disent que là, c'est comme une bonne piste, mais que ça va prendre pas mal de bio-ingénierie et de travail, parce que là, ils sont comme, il y a une grosse différence entre combattre une bactérie dans un plat de pétri, puis genre...
Oui, ça, c'est l'autre affaire, effectivement.
Puis combattre une bactérie à partir d'une protéine qui est sur la surface de ta peau avec une piqûre d'un insecte, en tout cas, bref. Il y avait quand même beaucoup d'étapes encore
avant d'avoir un traitement miraculeux.
Exact. Voilà, donc c'était publié le mois dernier, donc une piste de recherche pour le traitement préventif de la maladie.
Ben, c'est vraiment intéressant. Surtout, qui l'eût cru dans la sueur. En tout cas, bref, je suis fascinée. Sur ce, on va poursuivre en musique. On va aller écouter Jean Raffole de Kelsk avec Shrees. Et on se retrouve après pour la suite de ces actualités scientifiques.
Yo, Shrees, pas les glames. C'est Kelsk.
You know how it is.
C'est pas faire normal, je viens donc que je te montre. Je sors un relève quand j'ai transfert un train sur ma montre. Je sais pas faire de la magie, viens donc que je te montre. J'ai le sourire aux lèvres quand je compte. Je suis ravi d'avoir vidé ton compte. Mes bêtes ne manquent jamais le compte. On aime le profit, on adore quand ça monte. Vente de produits pour éviter la pente. Préparé pour peu importe ce qu'on rencontre. Jamais, jamais on rigole. On bricole. Agricole. Plus frais ta c'est pas folle. Reprends ta moule, pourquoi elle me colle. La mienne est folle. Loin d'être molle. Je rigole point, je passe au guichet, je fais plusieurs points. Sur le dé répéter plusieurs points. C'est quasiment comme si j'avais plusieurs mains. Plus ou moins fini, je suis indécis. Tout ce que je veux c'est de me casser d'ici. Ici y'a pas de bras droit comme Rafiki, y'a que des snakes et des rats ici. Mais on garde la tête haute, on n'arrête pas. Préparé pour tout ce qu'on rencontre. Je m'en fous des tiens si c'est pas dans mon compte. Y'en a foutre de ce que tu racontes. Toujours en ligne pendant que tu bats ta job. J'ai un transfert en train sur ma montre. Trop préoccupé par qu'est-ce qu'il y a dans mon bol. Pour voir ce que t'as dans ton ventre. Garde les yeux sur ton place, d'un conseil d'ami. Ça t'évite de finir en repas. Et petit fais une croix sur ton ami. S'il est jamais content pour toi, il est plus dangereux que ton ennemi. Parce que lui a ça à toi. Et petit rappelle-toi que je l'avais dit. Quand il va se retourner contre toi. Transfert en train sur ma montre. Je sais pas faire de la magie, viens donc que je te montre. J'ai le sourire aux lèvres quand je compte. Je suis ravi d'avoir vidé ton compte. Mes bêtes ne manquent jamais le compte. On aime le profit, on adore quand ça monte. Faute de produits pour éviter la pente. Préparé pour peu importe ce qu'on rencontre. Jamais, jamais on rigole. On rigole. Agricole. Plus frais t'as c'est pas folle. Reprends ta moule, pourquoi elle me colle. La mienne est folle. Loin d'être molle. Elle me rend fou, je raffole.
Me fait la rigolade. J'en ai perdu des amis, dalle.
J'en ai perdu des photos.
Malgré tout, je me régale. Moi, des chaises à ma table. Oh oui, les snakes se sentent coupables. Oh oui, les snakes se sentent coupables. Le fitness,
ça me dégoûte.
J'ai arrêté de compter mes peines. Je compte mes euros sur la route. Pendant que c'est Alba en la haine. Je prends le mic, bombe tout. Fini le jeu de serpent échelle.
Et t'en raffoles.
J'ai changé de case et de mamzelle. Je m'exile et oui j'excelle. Je suis loin d'être su, je sais que je suis bonne. Qu'est-ce qui donne.
Faut pas être mad, qu'est-ce qui bombe. Ma tête reste haute mais je suis loin d'être mal.
Tous ces fake roomies, j'élimine. Tous ces black zombies, je les empile. Tu me vois pas quand je work dans l'invisible. J'ai vu beaucoup de choses donc je parle en pile. C'est pas quelque chose que tout le monde comprend. C'est pas une course, tu peux prendre ton temps. Jamais je me défile si tu parles content.
Si tu parles content.
Je fais juste prendre mon temps. Dans ta tête ça sonne.
Dans ta tête, ça sonne.
T'as besoin de ta somme. Mais je suis pas conne. J'ai beaucoup de cran.
Transfert en train sur ma montre. Je sais pas faire de la magie, viens donc que je te montre. J'ai le sourire aux lèvres quand je compte. Je suis ravi d'avoir vidé ton compte. Mes bêtes ne manquent jamais le compte. On aime le profit, on adore quand ça monte. Faute de produits pour éviter la pente. Préparé pour peu importe ce qu'on rencontre.
Jamais, jamais on rigole.
On rigole.
On rigole.
On rigole.
Plus frais, c'est pas folle. Reprends ta moule, pourquoi elle me colle. La mienne est folle. Loin d'être molle. Elle me rend fou, je raffole.
Vous êtes de retour à Jimmy et Neutron pour cette semaine, cette émission d'actualité scientifique plutôt. Et moi, aujourd'hui, François, mon actualité scientifique est inspirée d'un fait vécu.
Okay.
Que j'ai vécu moi-même.
Ooh.
Alors, plus tôt cette semaine, j'ai pris le métro sur la ligne bleue, comme je fais à tous les jours pour aller à l'hôpital Sainte-Justine. Et j'ai vu, tu sais, il y a des écrans où tu vois dans combien de temps passe ton prochain métro. Et souvent, il y a des pubs.
Mm-hmm. Fait
que, en fait, assez souvent, ça va être soit des nouvelles qui m'ont passé ou quoi que ce soit. Et là, j'ai vu une pub pour l'Ozempic. Et j'ai vraiment été choquée. Mais choquée. Oui, quand même choquée. Ça m'a vraiment surprise, surtout. Je me suis dit, voyons donc, comment ça, il y a des pubs sur l'Ozempic, sur les écrans dans le métro. Puis, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté cet épisode-là, en septembre dernier, on a fait un épisode sur l'Ozempic. Mm-hmm. Je ne vais pas nécessairement répéter tout ce qu'on a dit à ce moment-là, mais je pense que c'est important qu'on en parle quand même un petit peu encore. Là, déjà, le premier gros point d'interrogation en tout ça, c'est comment ça une pub dans le métro? Je me suis même demandé à quel point c'était légitime d'avoir une pub d'un médicament dans l'espace public comme ça. Puis j'ai trouvé les phrases que je vais vous lire à l'instant sur le site de la presse. Donc, au Québec, il est interdit de faire de la publicité pour les médicaments d'ordonnance, sauf si leur indication n'y figure pas. Quant aux médicaments en vente libre et aux produits de santé naturelle, vous l'aurez deviné, c'est permis, pourvu que l'information mise de l'avant ne soit pas fausse, trompeuse ni exagérée. Là, malheureusement, j'ai pas pris la publicité en question en photo, fait que on s'entend que je l'ai vu vite fait, quelques secondes. J'ai clairement vu la mention Ozempic, par contre. Fait que là, je me demande comment ça se fait que...
Moi, mon feeling par rapport à ça, c'est que Ozempic, c'est tellement devenu une marque connue que c'est un peu comme Viagra. Tu peux annoncer Ozempic, puis les gens, ils savent de quoi tu parles.
Ah,
puis t'es pas obligé de dire...
C'est ça que ça contournerait.
C'est ça, t'es pas obligé de dire c'est un médicament contre le diabète et pour qui favorise la perte de poids. T'es pas obligé de le dire. C'est tellement connu, l'Ozempic.
C'est pour ça, d'où le sauf si leur indication ne figure pas.
Exact.
Ah, intéressant. Ben là, tu réponds à ma première question parce que je comprenais pas comment... Parce que c'est vrai, je me rappelle quand j'étais jeune, à la télévision, il y avait beaucoup d'annonces de Viagra et de ce genre de médicaments-là.
Quand ça sortait, là,
oui, c'est ça.
Mais c'est un mot qui est devenu tellement connu que tout le monde sait ça fait quoi.
Donc
tu peux contourner cette réglementation-là en faisant juste rouler ta marque de commerce.
Oui, parce que si je me rappelle bien, là, je l'ai vu rapidement, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre d'écrit sur la publicité en question. C'était écrit aux Ozempic, il y avait deux personnes dessus qui avaient l'air genre de sourire. Puis c'était tout. Ah, incroyable. Mais en tout cas, bref, on va en parler quand même.
OK.
Dans notre épisode de septembre dernier, je sais pas à quel point tu t'en rappelles, ou nos auditeurs et auditrices s'en rappellent, François, tu nous parlais d'une étude anglaise qui est une étude randomisée contrôlée, très important ici pour ajouter de la crédibilité à l'étude en question, avec plus de 300 participants en 2020, puis ça a été publié en 2022. Dans le fond, les conclusions de cette étude étaient que, certes, on perd du poids avec les médicaments à base de sémaglutide, ce qu'est l'Ozempic, mais sur le long terme, c'est plus ou moins stable.
Mm-hmm.
Donc, dans cette étude spécifique, après un an sans médicaments, les participants avaient en général repris environ le 2/3 du poids perdu et avaient aussi toutes les différentes conditions cardio-métaboliques qui étaient de retour également. Donc, si on arrêtait le traitement sur le long terme, c'était pas viable, mais les effets ne perduraient pas dans le temps. Depuis, il y a eu d'autres essais cliniques qui ont été publiés, dont un dans le journal Nature qui a été aussi publié en 2022, qui évaluait les effets du sémaglutide pendant 2 ans. Et encore une fois, la conclusion est similaire. On voit que le médicament fonctionne. Il fonctionne très bien même. Mais le problème n'est pas nécessairement là, en fait. C'est que les gens, avec un grand G, qui voudraient l'utiliser comme une solution magique, mais c'est là le problème, c'est là que le bât blesse en fait, parce que dans la majorité des cas, les symptômes reviennent lorsque le traitement est arrêté. On parle notamment de la prise de poids, qui est le symptôme visuellement qu'on remarque en premier, mais tous les autres risques pour la santé qui y sont associés, que ce soit des risques cardiovasculaires, au niveau de l'hypertension, des risques métaboliques, etc. Donc, il y a eu un autre essai clinique publié qui portait spécifiquement sur l'arrêt du médicament. Parce que les autres, dans le fond, ils portaient surtout sur les effets du médicament. Celui-ci, c'est sur l'arrêt du médicament. Donc, il y a eu 800 participants qui ont reçu des injections hebdomadaires de sémaglutide. Puis, ils ont aussi modifié leur régime alimentaire, ils faisaient de l'exercice, ils étaient suivis aussi par des professionnels de la santé. Puis, en moyenne, en 4 mois, il y a eu une perte de poids d'environ 10%, ce qui est quand même assez important. Puis, il y a un tiers du groupe qui a commencé à recevoir du placebo à la place pendant un an. Tout ça, là, je sais pas si, je pense que ça doit être aussi randomisé contrôlé. Ils savaient pas qui était qui. Et 11 mois après le changement, donc du sémaglutide vers le placebo, les personnes du groupe placebo avaient repris presque 7% de leur poids, alors que le groupe sémaglutide, lui, avait continué d'en perdre. Mmh. Donc, on voit encore une fois que dans le temps, c'est pas quelque chose de stable. Puis, j'ai aussi lu un article de vulgarisation qui a été publié dans The Conversation. Puis l'autrice, Natasha Yates, elle compare l'Ozempic à d'autres médicaments, pour d'autres conditions de santé. Ozempic et tout, c'est cousins, oui, et frères et sœurs et tout ça, là. Donc, elle compare à d'autres médicaments du genre, par exemple, pour l'hypertension. Puis, par exemple, quelqu'un se fait prescrire des médicaments pour l'hypertension. C'est des médicaments, que tu prends à vie. C'est pas, tu l'essayes une fois pendant 5 ans, puis après ça, t'as plus de problèmes. Si t'arrêtes, ben, les problèmes reviennent. Puis, la population a tendance à voir l'Ozempic comme une solution magique de perte de poids, mais en fait, c'est pas exactement ça. Puis, c'est ça qui est difficile à comprendre et à faire un peu réaliser à tout le monde. C'est pas une cure en tant que telle, c'est un traitement sur le long terme. Et l'obésité qui est visée par l'Ozempic, c'est une maladie qui est complexe aussi. C'est ça qui est important à se rappeler. C'est pas juste un surpoids. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, des facteurs de mode de vie, certes, mais de génétique, d'exposition, et j'en passe beaucoup. Donc, on peut aussi se demander pourquoi il y a certaines personnes, en fait, qui arrêteraient de prendre l'Ozempic. Mm-hmm. Parce que si on sait que tu vas reprendre, tu risques de reprendre ton poids après. Ben, il y a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. D'abord, les pénuries. On en a entendu parler. On sait que c'est quelque chose qui existe. Il y a une très, très forte demande. Ouais. Et les compagnies pharmaceutiques n'arrivent pas à fournir. Fait que déjà là, pénurie, ben, si t'en as pas, puis tu peux plus en prendre. Ensuite, effets secondaires, il y en a eu beaucoup apparemment, surtout au niveau gastro-intestinal, fait qu'il y a des gens qui ne tolèrent tout simplement pas l'Ozempic, donc ils ne peuvent pas en prendre. Et finalement, le coût élevé. Parce que, je sais pas, au Québec, j'ai pas recherché si c'était remboursé par la régie d'assurance maladie, d'assurance médicaments, pardon. J'ai vu dans l'article que je lisais, aux États-Unis, donc si on parle d'une injection par semaine, le coût pour un mois, c'était de 1 300 et quelques dollars américains.
Quand même,
donc,
hein?
Si t'as pas une bonne assurance médicaments, ça monte vite.
Ouais, ouais.
Pendant un an, on est à plus de... On doit être à 15 000 $ quand même.
Okay.
C'est beaucoup. Donc, globalement, je fais finir ma chronique comme ça. Faut faire attention qui le prescrit, pourquoi on le prescrit aussi. Est-ce que c'est une solution magique pour perdre du poids ou c'est vraiment parce qu'il y a un problème de santé qui est derrière? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis c'est aussi un enjeu qui est délicat pour les personnes avec des troubles du comportement alimentaire. Parce que prendre l'Ozempic, arrêter d'en prendre, ça peut contribuer à l'effet yo-yo qu'on voit beaucoup avec les diètes « miracles » entre guillemets radiophoniques, que « oh wow, c'est donc bien merveilleux, tu perds du poids, finalement t'en prends », ben ça aide pas donc les personnes avec ces troubles de comportement alimentaire-là. Puis c'est important finalement de se questionner en tant que société, la santé c'est pas nécessairement la minceur, faut faire attention. Il y a la grossophobie, il y a tout ça, il y a aussi des fois des problèmes qui viennent du corps médical lui-même. Donc, à voir comment il parle aux patients puis comment il traite le problème. Donc, la conclusion, c'est consulter vos professionnels de la santé. Et j'avais écrit ma chronique. On va voir si j'écris un message à la STM. Là, je pense que tu as répondu à ma question de ce niveau-là. Fait, je pense que je vais pas faire de plainte. Mais voilà. Donc, c'était ma petite actualité inspirée de faits vécus.
Mais c'est... Je pense qu'il y a quand même un comité qui révise les pubs à la STM. Il y a déjà eu des scandales dans le passé. Là. Ça veut pas dire que c'est sans risque pour eux, là, mais...
Oui, en fait, c'est juste que sur le coup, j'y ai pas pensé, mais maintenant que tu me l'expliques, c'est vrai que ça prend tout son sens.
Bon.
Sur ce, on va aller écouter Franchement de Bonnie Banane et on se retrouve après. Franchement,
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron et on poursuit notre émission d'actualité ou d'expérience personnelle par rapport à la première chronique de Corinne. Donc, Corinne, c'était ta suggestion d'ailleurs. On avait fait une série ou une émission sur les horloges.
Oui, ouais. Plutôt, c'était vers janvier ou février, je crois. Février, je crois.
Et donc, je suis tombé sur une nouvelle qui parle d'horloges. Je me disais, ah, c'est intéressant.
On fait des retours.
Donc, durant cette série sur les horloges, on a abordé le concept des horloges atomiques.
Oui.
Mais savais-tu qu'il existe un autre concept d'horloge basé sur l'atome?
Non.
Il s'agit de l'horloge nucléaire.
OK.
Et là, moi aussi, quand j'ai lu ça chez l'homme nucléaire atomique, ça veut quand même dire un petit peu la même affaire dans ma tête.
Oui.
Genre, si je te parle alternativement dans une phrase de bombe atomique et d'armes nucléaires, on va se comprendre qu'on parle de la même affaire tout le temps.
Totalement.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à une définition plus précise des deux mots, soit atomique pour faire référence à l'atome et nucléaire pour faire référence au noyau.
OK.
Donc, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus précis d'un point de vue là, de la définition du mot. Dans l'horloge atomique, je vais revenir un peu sur comment ça marche parce que moi-même, je m'en souvenais plus.
Moi non plus. C'est moi qui avais fait la chronique la première fois.
Donc, dans une horloge atomique, on va transmettre de l'énergie à des atomes à l'aide de lasers et ça va engendrer des fluctuations dans le niveau d'énergie des électrons qui gravitent. À défaut d'un meilleur terme, qui gravite autour des atomes. Mm-hmm. On est capable, par la suite, de mesurer la longueur d'onde du laser associée au changement de niveau d'énergie des électrons, ce qui, en retour, nous permet d'avoir un rythme, donc un temps.
Oui, parce qui que est toujours le même.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que la longueur d'onde, en fond, c'est une onde. Ça va en haut, ça va en bas, là, d'un point de vue d'un graphique. Fait que ça donne une mesure du temps. Et donc ça, les horloges atomiques, ça nous donne une espèce de comme étalon très 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 stable et très prévisible parce que c'est basé sur comme les propriétés atomiques de la matière. Dans le cas d'une horloge nucléaire, c'est un peu le même principe. Donc, on va faire augmenter le niveau d'énergie d'un atome à l'aide d'un laser, mais cette fois, c'est pas les électrons qui vont voir leur niveau d'énergie modifié, mais bien les noyaux des atomes.
Okay.
Donc petit cours physique vite, là. Le noyau, c'est des protons puis des neutrons. Puis autour d'eux, dans des zones, tournent les électrons.
Ouais.
Et donc, là, on vise davantage le noyau. Donc, c'est des particules qui sont plus grosses et aussi qui vont potentiellement vivre des variations d'énergie beaucoup plus faibles. Donc, ça fait quand même plusieurs décennies que l'idée de l'horloge nucléaire fait son chemin. Donc, il y avait des publications scientifiques depuis 2003 là sur... sur
la possibilité,
puis même avant, c'est juste qu'en 2003, on a comme identifié le bon élément, puis tout ça.
Okay.
Et là, en mars 2024, il y a une équipe internationale de recherche qui a publié des résultats de leurs travaux visant à mesurer de manière précise la variation du niveau d'énergie des noyaux dans le thorium-229.
Voilà. Précis.
Non, mais c'est un élément dont on réfléchit. On n'y pense pas, c'est un élément oublié.
C'est tout thorium-TH?
Je sais pas c'est quoi thorium.
Je vais faire une recherche en direct.
C'est bon. Donc, ce pourquoi c'est important, donc c'est quoi thorium?
Thorium-TH, effectivement, bon. Élément numéro 90.
Excellent. Donc, pourquoi c'est important cette publication-là? C'est qu'il s'agit de la première fois qu'on a une mesure précise des variations énergétiques des noyaux soumis à un laser. Et donc ça enlève en fait un obstacle à la fabrication d'horloges nucléaires fonctionnelles parce que comme on est capable d'avoir la mesure du temps. Donc on est capable de déterminer c'est quoi la longueur d'onde qui donne la variation d'énergie mesurable.
Ouais.
Et donc là, ça nous permet de dire, on est capable d'avoir cette lecture-là. Pourquoi vouloir des horloges nucléaires?
C'est ça que j'allais quel intérêt? Mais pas quel intérêt, mais comme vu qu'on a des horloges atomiques.
C'est ça, ne sommes-nous pas déjà satisfaits du service rendu par les horloges atomiques? Pourquoi toujours vouloir différent? Alors, ce qui est visé, c'est une précision encore plus grande que les horloges atomiques. Donc ça peut s'avérer intéressant dans des circonstances de recherche comme où il y a des phénomènes avec des variations très faibles dans le temps, où il y a des phénomènes qui sont comme pas assez fin pour qu'il soit pas détectable à l'intérieur de la précision des horloges atomiques. Moi, c'est ce que j'ai compris de ce que le monde voulait faire avec ça. On pourrait aussi utiliser les horloges nucléaires en parallèle des horloges atomiques pour pouvoir étudier la matière. Donc, si on est capable d'avoir une lecture du noyau, une lecture des électrons, on est capable de voir la relation entre les deux. Aussi, les atomes de thorium-229 utilisés dans l'horloge nucléaire sont insérés dans un solide, alors que dans le cas des horloges atomiques, les atomes sont conservés sous vide, ce qui engendre une complexité d'appareillage différente ou même supérieure. Donc, ça fait en sorte que les horloges nucléaires ont le potentiel d'être des appareils plus petits et moins complexes, donc plus facilement déplaçables ou encore plus facilement utilisables dans des conditions de laboratoire variées. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est l'intérêt. Malgré tout, il faut pas comme retenir son souffle qu'on va avoir une horloge nucléaire à notre poignet bientôt.
Ouais.
C'est quand même pas pour demain matin. Les personnes impliquées dans l'étude estiment que le temps de développement d'horloges nucléaires se compte en décennies et pas en années. Donc, mais ça s'en vient. Okay. Tranquillement.
On est là-dessus. Ben, déjà depuis qu'on a fait notre émission. Je sais pas si on en avait juste pas parlé.
Mais je savais même pas que ça existait. Mais là, apparemment que c'était dans l'air depuis un bout. Mais là, il y a eu une avancée notable dans la découverte des mécanismes pour en faire une horloge fonctionnelle.
C'est incroyable.
Voilà.
Sur ce, on va poursuivre en musique. On va aller écouter Focus de Joe Rocca. On se retrouve après.
Mais j'suis pas née d'y aller pas. Fumé pis la chemise sur du Miami Vice. Elle veut savoir ce qu'il y a dans ma part de Levi's. She better talk to me nice. Le diable est dans les détails. J'y ai mis tout ce que j'avais pis j'ai lancé les dice. So let's roll baby. J'ai pris le temps nécessaire. Passons à mon mission, pas du genre laisser faire. On reste focus. Stack up de quoi passer les bars. Donc qu'est-ce que t'as juste. J'ai encore cassé d'hier. Bomb de pause. J'ai même pas votre mort dans mes rêves. J'garde le motion. Pis j'en vais du ASMR. I mean, j'essaie de vivre de quoi être fier. Avec les pieds sur terre, les bras dans les airs. J'ai dû fermer les yeux pour y voir plus clair. Turns out it was all a lie. Oh, man. I know, you know. J'pourrais faire le tour du monde. You know, I know. J'pourrais pas plaire à tout le monde. Top of the league, it's obvious, top and repeat, stop, a compris, I mean, je les connais mais c'est pas mes amis, je pourrais pas plaire à tout le monde, mais ça c'est la vie, copy that, copycat, sort the sack, ton rapper préféré, match, je l'ai pas follow back, we out here, yeah. On dégré, j'suis encore de glace, go get you some money ou ben change de face, for real, fact is, y'a beaucoup de catfishing, des gros narcissiques, des cool man bitches, y'a un nouveau dans ton algorithme, t'es comme who that is, Joe Rocca, mais elle m'appelle baby. Elle trouve que je suis encore mieux dans la vraie vie. J'ai moins d'amis que j'ai de place à guest list. I guess c'est ça qu'on appelle le succès, baby. I know, you know.
J'pourrais faire le tour du monde.
You know, I know.
J'pourrais pas plaire à tout le monde.
I know, you know.
C'est mauvais pour moi, Godon.
You know, I know.
C'est mauvais pour moi, Godon.
vous êtes toujours à Jimmy et Neutron. Et donc, c'est la dernière actualité scientifique de l'émission qui n'est pas très, très loin de ma... pas très, très loin de ma première actualité scientifique. Là, j'ai parlé de Ozempic tout à l'heure.
Ça t'a inspiré.
Ça, si on veut, ben, tu sais, toi, t'aimes les actualités animalières et spatiales. Moi, je vais dans la facilité, puis je vais dans les actualités de santé.
Bon.
Mais dans la facilité pour moi, là, par rapport à mon bagage, évidemment.
Et ton domaine de recherche actuel.
Et mon domaine de recherche actuel. Je vais vous parler d'une étude qui est parue dans JAMA Network Open, qui est une revue scientifique, le 5 mars dernier, qui s'intitule Habitual Short Sleep Duration, Diet and Development of Type 2 Diabetes in Adults. Donc, on va parler de diabète de type 2.
De sommeil et d'adulte.
Exactement. Donc, en fait, ils ont fait un lien entre le nombre d'heures de sommeil de participants à l'étude et le risque de développer le diabète de type 2. En fait, ils ont utilisé les échantillons et les données, en fait, plutôt médicales d'une grosse, grosse banque de données qui existe, qui s'appelle la UK Biobank, qui, en tout cas, dans mon domaine, c'est quelque chose de super connu, là, c'est on a accès à des centaines de milliers de... tu peux aller chercher des échantillons, sinon c'est des données de participants. Tu as accès à leur ancestralité aussi pour voir ils viennent d'où, tout ça. Tu peux faire des études génétiques, etc., etc. Donc, eux, ils sont allés chercher 247 000 et des poussières sujets de la UK Biobank et ils sont allés chercher donc les informations médicales qu'ils avaient et ils sont allés voir si... postérieurement, ils ont développé du diabète de type 2 puis ils ont voulu voir s'il y avait un facteur de risque avec certaines habitudes de vie, donc notamment l'hygiène de sommeil. En fait, bon, petit rappel, le diabète de type 2, c'est très, très globalement une résistance à l'insuline. Donc, l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas quand on a des hauts niveaux de glucose sanguin, majoritairement dû à l'alimentation. Et dans le fond, on a beaucoup de glucose sanguin, notre pancréas est comme « Oh, wow, tu te calmes », sécrète de l'insuline, ça permet de diminuer les taux de glucose sanguin et c'est un cycle constant. Ben, chez les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, en fait, ils deviennent résistants à l'insuline, ce qui fait qu'éventuellement, le pancréas n'en produit plus ou presque plus et ils ont constamment un taux de glucose sanguin très élevé, ce qui entraîne donc un paquet de potentiels problématiques. Donc, ils ont vu que donc dans ces 247 000 sujets que la durée d'une nuit de sommeil était donc liée au risque de développer le diabète de type 2. Donc les gens qui dormaient environ 5 heures avaient 16% plus de risque de développer du diabète de type 2 que ceux qui dormaient environ 6 à 8 heures. Non, pardon, pas 6, mais 7 à 8 heures. Et ceux qui dormaient entre 3 et 4 heures avaient 40% plus de chances de développer que ceux qui dormaient 7 à 8 heures. C'est quand même genre une grosse, grosse, grosse différence.
Ouais.
Ils ont étudié aussi les autres habitudes de vie, donc ils ont considéré si leur diète. Donc s'ils étaient considérés comme en santé, s'il y avait encore une fois ce risque qui était présent, quoique moins important, mais les gens qui avaient une diète considérée comme bonne, il y avait quand même plus de chances de développer du diabète de type 2 s'ils dormaient moins de 6 heures par nuit. Comparativement à ceux qui, toujours avec une bonne diète, dormaient 7 à 8 heures par nuit. C'était quoi qu'est-ce qu'ils ont considéré comme une bonne diète? Donc, ils ont considéré le nombre de portions de fruits et légumes, ainsi que la quantité de viande et de poisson. Donc, ça demeure, tu sais, on s'entend que c'est une base de données, là, la UK Biobank, là, c'est pas non plus, t'as pas accès à tous les jours, etc., etc. Comme, par exemple, on n'a pas accès au fait que leur débit d'alimentation, si on veut, là, s'ils font du jeûne, par exemple, ou de l'alimentation intermittente, là, qui est comme un peu à la mode en ce moment, ou s'ils avaient, genre, une diète plus méditerranéenne ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu une des limitations qu'eux, ils mentionnent dans leur étude, mais c'est ça. Là, on s'entend qu'on parle d'un risque.
Ouais.
C'est important de le rappeler souvent. Là, c'est pas une causalité. Puis ils ont mentionné aussi qu'ils savent pas exactement pourquoi, en fait, en dormant moins, t'as plus de risques. Ils ont émis des suppositions dans leur discussion. Donc, notamment que on sait que quand les personnes ont moins de sommeil, ils ont une augmentation de leurs marqueurs inflammatoires dans le sang. Donc, potentiellement, une diminution de l'efficacité de l'insuline. Donc ça pourrait être une piste. Autrement, ils savent que moins de sommeil, ça emmène une interférence dans le rythme circadien qui, lui, joue un rôle dans la sécrétion de d'autres hormones comme le cortisol, le glucagon, les hormones de croissance, etc. Donc, qui, elles aussi, pourraient aller un peu à l'encontre de ce que l'insuline fait. Mais encore une fois, c'est des suppositions. Ils savent pas trop. Donc, encore une fois, comme je le dis, c'est une étude qui analyse des potentiels liens entre différentes choses. Donc, il y a pas vraiment de conclusion à part essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est toujours comme, un peu ça. Oui,
c'est comme un conseil général.
C'est ça, parce que on le sait très bien que si tu manges bien, si tu dors bien, si tu fumes pas, si tu consommes pas trop d'alcool,
tu réduis tes risques.
Tu réduis tes risques de pas mal tout.
Ouais. Mais donc, ça se peut aussi que tu empoignes une de ces maladies étudiées, tu sais.
Ben, c'est ça. Fait que.
C'est juste, tu réduis les risques, mais le risque existe encore.
Exactement. Puis comme je le disais dans mon autre chronique par rapport à l'Ozempic, c'est tout à fait vrai pour le diabète de type 2. C'est une maladie qui est complexe. Plusieurs facteurs de risque. D'une personne à l'autre, même si toi et moi, par exemple, François, on mange exactement la même chose, qu'on dort exactement les mêmes heures par nuit, ben ça se peut qu'il y ait deux choses complètement différentes qui se passent.
Qui nous arrivent, ouais,
donc,
c'est ça.
Donc voilà. Puis en plus, nous deux, on est, bon, moi je suis une femme, toi t'es un homme, mais on est deux blancs québécois, fait qu'on a quand même un profil somme toute similaire, là. Donc, et en plus, ajoute avec ça la provenance, l'alimentation, machin. On sait ce que ça peut donner. Donc, voilà, c'était ma petite... En fait, on sait pas ce que ça peut donner.
Oui, c'est ça.
C'est plutôt ça. Donc, c'était ma petite deuxième actualité sur le diabète de type 2.
Et l'importance du sommeil.
Et l'importance du sommeil, effectivement. On va partir en musique, on va aller écouter Comment de bord avec Blood Pareil et on se retrouve après pour une courte conclusion.
Y tú
chanson-là n'était pas au palmarès, mais elle l'a été. Elle l'a été longtemps, en plus, il me semble, mais bon.
Ben c'est correct. Je suis sûr que tout le monde te pardonne.
Oui, j'espère bien. Oui. J'espère bien. C'est de la fausse information.
Ah, voilà. On fait une émission de désinformation maintenant.
Faudrait pas.
Non. C'est bientôt la fin de cette émission. D'ailleurs, en parlant de fausses informations, la vérité, c'est que c'est bientôt fini.
Oui.
Peut-être une mini micro actualité. On apprenait cette semaine, lundi, que le ministère de la Santé au Québec avait recensé 28 cas de brûlure de yeux, en tout cas de lésions oculaires suite à l'éclipse du 8 avril. On vous a beaucoup parlé de l'éclipse, on vous a beaucoup parlé des lunettes.
Il fallait écouter Nathalie Ouellet qui nous expliquait pourquoi porter ses lunettes.
Pourquoi porter ses lunettes. Donc voilà, il y a quand même eu des lésions. Et c'est la première fois au Québec là, qu'on fait le relevé de lésions oculaires suite à une éclipse solaire.
OK. Voilà. Bon, mais on le dit, ça a été dit et redit, il fallait porter ses lunettes. Là. Voilà.
Donc sur ces belles paroles de santé publique...
Ouais, beaucoup de santé publique aujourd'hui. Mm-hmm. On va finir donc avec Rose et la pièce Virer nos vies. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est une rediff, mm-hmm. mais au début de la saison prochaine, jeudi à 13h.
Oui, bye bye.
Même si la bande te pine, viens, on va couper ta ligne. Avant de virer nos vies à l'envers. Talk, posterette passive, agressive. Je me demande encore ce qu'il nous reste à vivre. Pousse ta luck, puis par la porte. Puis touche du bois, même pas encore à la traque. Déjà pogné de l'eau d'or, on va revenir à la nage. Moi, c'est mon last call avant de virer nos vies à l'envers. Avant de redresser la pente, je pars de la descente. Comment faire, marée haute solitaire. Tu dis qu'il est trop tard, que le vol déborde, que jamais de bonne fin pour les filles folles. Moi je m'en vais décrocher la lune, accrocher à ton cou avant que le ciel s'allume. Tu veux toujours rester un peu plus longtemps, tu me fais peur, reviens du sang. Ouais, on veut virer nos vies à l'envers. Assez grande pour tes pupilles, d'un lit assez creux pour ta fatigue. Il faut se pardonner, je suis partie en retard, j'ai couru toute l'année. On veut virer nos vies à l'envers avant de redresser la pente. Je pars de là.
premier stop de l'été. Le Festival Santa Teresa est de retour du 9 au 12 mai avec une programmation de feu. Le jeudi, on y présente une toute nouvelle soirée d'humour avec Arnaud Soli et ses invités. Un vendredi indie rock avec Carquois et Thierry Larose. Un samedi de rap euro-québécois avec Ziak, Caballero et Jean Jass, Lord Larry Edges et Mozaïen. Et un dimanche pop rock chapeauté par Daniel Bélanger, Command de bord, BB Club et Robert Robert. Trouvez tous les détails sur santateresafest.ca.
C'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
Le 2 mai prochain pour la dernière session live de la saison, CISM s'invite au URSA pour une prestation de Calamine devant public. Calamine présentera des extraits de Décroissance personnelle, son troisième album paru au début du mois d'avril, et il répondra à nos questions super importantes sur plein d'affaires. Venez voir Calamine en session live au URSA, 55 89 Avenue du Parc, le jeudi 2 mai, de 19h à 20h. C'est ouvert à tout le monde, puis c'est gratuit.
Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Créer une BD, c'est faisable. Danser la salsa sans piler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Art visuel, cinéma, communication, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer notre créativité ce printemps, on s'inscrit aux ateliers culturels de l'UDM sur catalogue.vieétudiante.umontréal.ca. En prime, on profite d'un 20$ de rabais sur notre inscription à un atelier avec le code promo CISM893.
On est Dear Criminals.
Vous écoutez CISM 89.3.
Dans la marge de CISM, ça date pas d'hier.
10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, la marge.
Vous écoutez La Collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.
C'est...